Bonjour, chers amis de Radio Ville-Marie. Bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Et selon notre bonne habitude, nous regardons le texte proposé par la liturgie pour ce dimanche. Disons-le tout de suite, il s'agit de la guérison de 10 lépreux. Et ce récit, il est propre à Luc. Francine, juste avant que j'en fasse lecture, peut-être quelques clés, disons, là?
Oui, une particulièrement, merci Claude. C'est que habituellement, lorsqu'on lit des récits de miracles, de guérison particulièrement, notre réflexe, c'est de considérer le miracle comme la raison d'être du récit, comme l'essentiel. Mais si on porte bien attention au récit lorsque vous nous le lirez, on pourra observer qu'il y a deux étapes dans le récit et que le miracle étant dans la première étape, la deuxième étape a finalement plus de poids encore que la première.
C'est en Luc, au chapitre 17. Comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il longeait la frontière entre la Samarie et la Galilée. Alors qu'il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous! » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? » Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. Et Jésus lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Francine Robert, comme vous nous le présentiez en tout début, effectivement, on est en présence de deux étapes. Hein. Il y a le miracle comme tel, là, hein, les 10 qui font appel à Jésus, et celui-ci dit une parole, et on a la guérison des 10. Puis il y a une deuxième étape, qui celle-là est plus longue, hein, c'est le retour d'un seul lépreux guéri, et suivi du commentaire de Jésus.
Oui, et vous vous doutez qu'on attachera plus de temps à commenter cette deuxième partie.
C'est ce que je prévois. Autre remarque, ça concerne la géographie. Hein. Mm-hmm. On rappelle que Jésus se dirige vers Jérusalem, donc vers la Passion et vers sa mort. Probablement qu'il s'agit là du symbole du cheminement à faire pour tout disciple de Jésus. En somme, on est en présence d'une catéchèse chrétienne.
Oui, c'est sûr. Ce qui est symbole du cheminement, Claude, c'est la longueur du voyage de Jésus dans Luc. Hein, ce voyage qui dure de la fin du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19 avec l'histoire de Zachée. C'est pour ça qu'on dit que dans Luc, le voyage physique de Jésus vers Jérusalem devient pour lui comme une longue catéchèse sur le cheminement de ceux qui suivent Jésus. Et il ne s'agit pas seulement des disciples historiques à ce moment-là, mais de tout chrétien qui veut suivre Jésus sur le même chemin. Et dans cette section-là, Luc met beaucoup, beaucoup de matériaux, de récits qu'il est le seul à avoir, comme ce récit de guérison d'aujourd'hui.
C'est donc dans cette dynamique là qu'on situe
oui.
cette...
Oui, on devra y lire une catéchèse chrétienne, c'est mm-hmm. certain.
Maintenant, le chiffre 10, intéressant, hein? De rappelez-nous donc, rapidement.
Peut-être.
Il y a sûrement une raison, mais...
Écoutez, ça peut être tout bêtement le souvenir qu'il y en avait 10. Ça, c'est toujours une possibilité.
Mais
10, ça figure aussi le peuple en situation liturgique à la synagogue. Il faut être au minimum 10 hommes, pour 10, pas 10 personnes, 10 hommes au sens masculin, pour que l'office de la synagogue puisse avoir lieu. Et d'ailleurs, le récit précise qu'il s'agit de 10 hommes lépreux aussi, précise Anner, là, et non pas humains au sens
général. C'est ça,
général.
C'est vraiment, vraiment des hommes, et ce sont des marginalisés par excellence.
Les lépreux sont des marginalisés, c'est certain. Déjà, la Galilée qui est mentionnée et la Samarie sont des régions où on est considéré comme des moins bons croyants qu'en Judée, puis dans la région de Jérusalem, hein. Alors, des lépreux issus de ces milieux-là, c'est vraiment les croyants de basse classe, d'une certaine manière, des marginalisés, des exclus. Ça n'est pas nécessairement la lèpre au sens moderne du terme. Ça peut être toute maladie de peau qui dure, tâche importante. Et le lépreux est alors amené, ce malade que l'on appelle lépreux, amené au prêtre pour une déclaration officielle d'exclusion. Hein? Même chose, si jamais il guérit, il doit aller au prêtre pour une déclaration officielle. Les lépreux sont considérés aussi plus ou moins comme des pécheurs, puisque cette maladie est considérée possiblement comme une punition de Dieu. Et pour qu'on imagine un peu la scène, Claude, je rappelle le chapitre 13 du Lévitique, hein, qui est très précis, qui est très long aussi, ce chapitre. Ça dit bien, les lépreux ou le lépreux doit porter des vêtements déchirés, on peut s'imaginer les 10, doit porter les cheveux en désordre, doit se couvrir le haut du visage et doit crier « impur, impur » pour prévenir les gens de ne pas l'approcher, hein, pour... Lui-même doit tenir les gens à distance et il doit éviter tout le monde. Donc, c'est vraiment un exclu de la société, de la famille, du village.
Et dans le récit, on est hors du village.
Tout à fait. Il ne serait pas dans le village, ces 10 hommes lépreux. Et d'ailleurs, vous voyez, ils sont obéissants au Lévitique. Ils s'arrêtent à distance de Jésus pour crier vers lui. Hein. D'abord pour l'avertir, mais leur cri inclut un appel à la pitié. Hein. « Maître, aie pitié de nous ». Soit parce que la réputation de guérisseur de Jésus l'a précédé et qu'ils en ont entendu parler, soit c'est tout à fait possible parce qu'ils demandent l'aumône, puisqu'ils n'ont aucun moyen, aucune ressource, les lépreux. Hein. Ce qui est intéressant dans le récit, après nous avoir dit que les lépreux ont crié, c'est que le récit ne nous dit pas que Jésus les entend, ce qui serait logique, mais qu'il les voit. Et ce regard de Jésus qui est assez fréquent dans l'évangile de Luc, c'est un regard de compassion. Hein. C'est la manière dont il les voit. Il ne les voit pas comme des lépreux, des exclus, des pécheurs. Il les voit avec une compassion spontanée comme des malheureux. C'est le regard habituel qu'il porte sur les exclus, les souffrants, et etc. Et donc, les guérir, ce sera aussi pour lui annuler l'exclusion. Non pas seulement annuler la souffrance, mais les réintégrer dans une vie sociale qui a du bon sens.
Ouais, c'est intéressant. Il ne les entend pas, mais il les... Enfin, il les voit. Oui, il les entend. Mais l'évangéliste rapporte en les voyant.
C'est
hein, il
ça.
Les voit.
Donc, il les voit pas comme tout le monde les voit.
Voilà.
On pourrait dire ça.
Et maintenant, regardons de près la guérison. Mm-hmm. Dans un autre récit de guérison, Jésus touche le lépreux.
Oui.
Ici, c'est juste une parole.
C'est juste une parole et ça n'est même pas clairement une parole de guérison. Ça n'est pas « je le veux, soyez purifiés » ou quelque chose du genre. C'est « allez vous montrer au prêtre ». C'est une parole qui sous-entend « allez faire constater votre guérison au prêtre, comme ça vous serez réintégrés ». Donc là encore, c'est intéressant. L'accent pour Jésus porte sur la réintégration. Et ils vont obéir à cette parole alors qu'ils n'ont aucun signe, ils sont pas guéris à l'instant. C'est une parole qui a l'air d'être sans effet.
C'est ça. Sur la parole de Jésus, ils vont se... Autrement dit, ils constatent pas qu'ils sont guéris
pas
ou pas.
Du tout.
Sur la parole de Jésus, ils se lèvent et se mettent en marche.
Voilà. C'est ça l'effet de la parole de Jésus. C'est de leur ouvrir un espoir, ou on pourrait dire les sortir de la résignation. Donc, ils croient sur sa parole. On pourrait se rappeler le centurion qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur, puis Jésus lui dit « Oui, ton serviteur est guéri » et il le croit sur parole, le centurion. Et Jésus va louanger la foi du centurion. C'est pour les gens curieux au chapitre 7 de l'Évangile de Luc. Alors ici, si on le prend sous l'angle donc d'une catéchèse chrétienne, on nous présente une démarche de confiance, de foi, qui croit en l'avenir que Dieu peut ouvrir. Un avenir qui est bloqué. Cette parole-là met debout, met en route face à un avenir que Dieu peut ouvrir. Et ils vont recevoir une réponse à cette confiance. Leur confiance va être confirmée puisque le récit nous dit qu'en chemin, alors qu'ils vont se montrer au prêtre, la guérison survient. Et elle survient pour les 10. Soyons bien clairs. Même si ensuite on va mettre le projecteur, je dirais, sur celui qui revient, les 10 sont guéris. Alors, on peut dire qu'ils sont guéris grâce à la parole de Jésus, bien sûr, mais aussi grâce à leur foi.
Grâce à leur foi. C'est vrai. Bon, d'abord, crier vers Jésus. Et deuxièmement, accepter, de se mettre en route, de se mettre en marche, de se lever, etc.
Oui.
Bon. Alors, si le récit arrêtait ici, là,
on aurait un récit
de miracle, clairement et simplement.
Oui,
mais il y a une deuxième étape très importante qui nous fait aller loin. Ça suggère une autre qualité de foi. Là, ça invite le lecteur chrétien à dépasser une foi fondée d'abord sur les miracles que Jésus est capable de faire.
Tout à fait. Donc, l'un des 10 revient. Et selon les rapports sociaux que les évangiles mettent en scène, cet homme qui revient, c'est l'exclu total, c'est-à-dire un lépreux et un samaritain, c'est-à-dire un schismatique, un ennemi considéré en tout cas comme un ennemi par le judaïsme officiel, etc.
Ouais.
Alors, il est l'exclu par excellence. Je rappelle que pour lui aussi, le Lévitique a force de loi. Les Samaritains suivent la loi de Moïse, qui est pour eux aussi la loi de Dieu. Et normalement, donc, il irait se montrer à un prêtre de Samarie. Évidemment, le récit ne nous dit pas si finalement il va aller le faire. Ce que le récit précise, c'est « voyant qu'il est guéri, il revient sur ses pas ». Il est certainement pas le seul à voir qu'il est guéri. Ils sont tous guéris et ils s'en rendent sûrement tous compte. Le récit dit pas « et lui vit qu'il était guéri ». C'est « voyant qu'il était guéri, il revint sur ses pas ». Donc, ce voir-là, c'est comme si ça nous donne le sentiment qu'il voit plus que sa guérison. C'est un voir qui le remet en route dans une autre direction, on pourrait dire.
Oui, oui. Alors que les 9 autres, on les perd de vue.
Oui. Ils ont tous vu leur guérison. Lui semble voir autre chose dans sa guérison.
C'est ça.
Un peu comme tout le monde voit les lépreux, mais Jésus semble les voir autrement que tout le monde. Il y a une qualité du regard, je dirais, là, qui est intéressante.
Et sûrement que le verbe retourner, revenir sur ses pas, a un sens beaucoup plus profond qu'un simple retour.
C'est vrai. Il signifie cela, bien sûr, revenir sur ses pas. Mais lorsque, dans l'Ancien Testament, entre autres, il est associé à quelque chose en rapport avec la foi, avec l'expérience spirituelle, habituellement, revenir va avoir aussi un sens intérieur. Je pense au fils prodigue qui dit « je vais revenir chez mon père ». Vous voyez? Un petit peu le même principe. Donc, il y a quelque chose comme d'intériorisé chez ce Samaritain guéri. Il retourne son regard sur sa guérison pour la voir à un autre niveau. Qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est qu'il revient en rendant gloire à Dieu. Il n'attend pas d'être devant Jésus. Son chemin devient un chemin de gloria, si on veut
le
dire en latin.
Oui, il faut relire à la lumière de ce que vous nous dites. Il faut relire ce texte pour voir. Oui. Il revient en rendant gloire à Dieu.
C'est ça, tout à fait.
Alors, si
nous, on ne voit là qu'un homme plus poli que les 9 autres, qui a été bien élevé, qui sait qu'il faut dire merci.
On passe à côté.
Je pense. C'est pas seulement de la reconnaissance. Ça n'exclut pas la reconnaissance, la gratitude. Mais c'est plus que cela sous l'angle de la catéchèse chrétienne. D'abord parce qu'il louange Dieu. Et c'est comme si ça nous disait que dans sa manière de voir sa guérison, il reconnaît l'action de Dieu. Alors, pour le dire autrement, il voit, lui, dans la manière dont Jésus l'a regardé, dans la manière dont Jésus a agi, il voit là-dedans la façon dont Dieu nous voit et dont Dieu agit. Mm-hmm. Voyez, il voit chez Jésus
l'action de Dieu. Et d'une certaine façon, ça se confirme parce qu'il se jette à ses pieds. Et dans le monde juif, on ne se prosterne pas devant quelqu'un.
Non, et ça n'est pas le verbe se prosterner qui est là.
Ah bon?
Non, le verbe qui est là, c'est le geste classique pour dire on jette aux pieds de quelqu'un.
OK, moi je voyais dans ça comme
l'adoration.
Comme une reconnaissance.
Vous voyez, mon cher, si c'était dans Matthieu, c'est ça qu'on aurait, le verbe de prosternation. Okay. Mais pas dans Luc, ni ailleurs dans les évangiles.
Okay. Mais quand même, il voit dans la personne de Jésus plus qu'un guérisseur, quand même.
Oui, ou en tout cas, son geste, c'est un geste soit de supplication, ici, c'est pas le cas, ça peut être aussi un geste classique de reconnaissance, de profonde gratitude, ça, c'est sûr. Ce qu'il voit, c'est pas tellement dans Jésus, oui, c'est dans l'acte de Jésus. Hein. Il reconnaît là l'action de Dieu. Okay. Alors, c'est sûr que c'est Jésus... Okay. Et devient un signe, efficace de l'action de Dieu. Et ici, le récit va préciser qu'il pose ce geste devant Jésus en lui rendant grâce. Hein.
C'est ça.
On réfléchit pas souvent à cette expression « rendre grâce ». C'est rendre à l'autre la grâce qu'il m'a donnée. Hein. Le don a été fait gratuitement. Je te rends ta grâce. Évidemment, pas « je te la redonne ». J'en veux pas de ton don, je te le redonne, pas du tout. C'est la rendre symboliquement, c'est rendre à l'autre le don en tant que don. Hein, je reconnais que tu m'as donné et je te rends grâce. Je reconnais que ce que tu m'as donné m'advient comme grâce et je te le rends symboliquement. Je te donne ce que tu m'as donné. Vous voyez, d'une certaine manière, c'est ça, rendre grâce.
Hein? Et le verbe grec, c'est Eucharistéo,
qui
veut dire faire Eucharistie.
C'est pour nous, c'est devenu faire Eucharistie. Donc, l'Eucharistie, c'est rendre grâce. Hein. On pourrait élaborer là sur l'Eucharistie, mais bon, on le fera pas. Mais juste rappeler que on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a donné. C'est assez intéressant. On offre à Dieu le pain et le vin, mais en lui disant que c'est lui qui nous les a donnés, on te rend grâce.
Et on s'attend à ce qu'il nous...
Et on s'attend à ce qu'il nous les redonne à travers le mémorial de la dernière scène. Donc, vous voyez, il y a un circuit, là. Il nous donne, nous lui donnons et il nous redonne. C'est au fond ça la relation de communion avec Dieu. Alors, bon, pourquoi on parle de ça? Parce que, je le rappelle, le verbe qui est là dans le texte, pour qualifier l'action du lépreux, c'est rendre grâce à Jésus.
C'est ça. Bien, et la réaction de Jésus maintenant? Hein? Jésus ne s'adresse, il s'adresse à l'homme, là, mais il mentionne les autres.
C'est-à-dire, il parle aux autres. Il parle de lui à la troisième personne, donc c'est comme s'il parlait aux autres. Hein? N'y a-t-il que cet étranger?
Okay.
Voyons, qui parle? C'est pas à lui. C'est comme s'il montrait cet homme du doigt. Là.
Verset 17, est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Vous avez raison.
Et il n'y a que 7 étrangers.
Uh-huh.
Donc, c'est sûr que quand c'est comme ça, quand c'est raconté comme ça, c'est pour nous, pour être sûr qu'on est dans le récit. Les questions que Jésus pose, ce ne sont pas des questions pour s'informer. Hein. Ça exprime son étonnement. Où est-ce qu'ils sont les autres guéris? C'est la question qu'on pourrait se poser. Ça nous donne le temps d'y penser. Hein. Pourquoi est-ce que les autres ne sont pas là? On peut imaginer, si on veut rester dans des faits bruts, on pourrait se dire, bon, OK, ils ont voulu d'abord aller au bout de l'ordre que Jésus leur a donné. Ils vont aller se montrer au prêtre et puis ils vont revenir. Ou on pourrait dire, ben non, ils sont retournés dans leur famille. Ou ce qu'on dit toujours, ils manquent de reconnaissance. Ces gens, ce sont des ingrats et on peut les en blâmer. Mais si on les en blâme, il faut quand même oublier que leur foi du début, elle n'est pas moins réelle. Hein?
Oui,
mais elle ne va pas jusqu'à un acte de reconnaissance,
si on veut. C'est ça, il y a un acte de foi du début.
Oui, qui n'est pas gommé par l'ingratitude, qui n'est pas à effacer, je dirais.
Alors que lui, celui qui revient, va aller plus loin.
Plus loin, comme on disait voilà. Tout à l'heure. Donc, il y a une fois première étape et puis une fois deuxième étape.
C'est ça.
Et le récit s'en fiche. Il nous explique pas pourquoi les autres ne sont pas revenus. Ça sert simplement à mettre en valeur celui qui est revenu. Et donc, celui qui a vu, qui a été capable de voir dans la guérison, plus que sa propre guérison, une œuvre qui dit quelque chose de Dieu. Donc, un acte de guérison personnel, très limité, mais qui finalement reflète la compassion de Dieu et que Dieu trouve sa gloire, on pourrait dire, dans cette compassion. Vous voyez, c'est une question de regard. Et c'est pourquoi Jésus va lui dire, « Ta foi t'a sauvé. » Hein, le salut, à la fin du récit, c'est pas ta foi t'a guéri, il est déjà guéri,
c'est vrai.
Les autres aussi.
C'est vrai.
Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. De quel salut il s'agit? Ben, c'est de cette entrée, on pourrait dire, dans la découverte de Dieu qui trouve sa gloire à donner et à qui on rend le don en retour. Cette espèce de relation, on pourrait dire, de communion. Alors, c'est sûr que on voit bien dans la réaction de Jésus qu'il est déçu. De constater que les autres ne sont pas entrés dans ce regard-là. Ils n'ont pas vu plus que leur guérison. Ils n'ont pas vu plus que le miracle, on est prévenu. Sinon, on voit seulement des miracles dans les récits de miracles. C'est un croire, OK, mais c'est un croire qui a encore du chemin à faire, disons, à progresser vers une, ce qu'on pourrait appeler une intelligence de la foi qui est capable de percevoir le projet de salut de Dieu qui est plus vaste que moi, finalement, qui est plus vaste que ma guérison personnelle.
C'est ça, qui dépasse la guérison. C'est
ouais.
Ça.
Je souligne rapidement qu'en indiquant que c'est un étranger, ça nous rappelle le salut ouvert à tous, hein, ce qui est un thème important chez Luc, mais on va pas élaborer. Mais quand Jésus à Nazareth va parler d'Élisée qui a guéri un lépreux étranger, je le signale parce que c'est la première lecture de ce dimanche. C'est ça qui est raconté. Si je vais vite sur cette finale, Claude, c'est parce que je veux avoir le temps d'aller un peu plus loin, de tricher et d'aller sur les deux versets qui suivent le récit. Donc, ils ne sont pas dans la lecture, mais il me semble qu'ils ont un lien avec la lecture. Est-ce que vous pourriez nous les lire? Donc, ce sont les versets 20 et 21.
Les pharisiens lui demandèrent, « Quand donc vient le règne de Dieu? » Il leur répondit, « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas le voici ou le voilà. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. »
Voilà. Alors, voyez, au niveau des personnages puis de la situation réelle, là, il n'y en a pas de suite. Hein? Les pharisiens sont pas là lorsque Jésus guérit les lépreux. Et le lépreux n'est plus là, le lépreux guérit. Lorsque les pharisiens arrivent, ça, on pourrait dire, ça n'a pas de rapport. Mais ça en a un au plan narratif, parce que Luc place ces deux versets-là après le récit de la guérison des 10 lépreux. Et le thème du salut chez Luc, c'est relié au thème du règne de Dieu, pas seulement chez Luc, évidemment. Le règne de Dieu, c'est quoi? Ben, c'est un vaste projet de libération de l'ensemble de l'humanité, je dirais, qui accéderait à sa pleine capacité à aimer. Hein? C'est ça. Et donc, dans la question des pharisiens, le règne de Dieu, il est futur. Dans la réponse de Jésus, le règne de Dieu, il est présent. Hein? Le règne de Dieu est parmi vous, pas sera parmi vous, est parmi vous. Et donc, on se dit, ben oui, mais on le voit pas. Non, parce que eux, ils attendent des faits spectaculaires. Ce que Jésus dit, le règne de Dieu ne vient pas comme un fait spectaculaire. Alors, il vient comment? Et comment pouvons-nous le voir? Il me semble qu'il est là, le lien. Le lépreux revenu, il a vu un salut plus grand que lui, vous voyez?
Ouais.
Alors, on pourrait dire, en tirant le récit du lépreux vers les deux versets qui suivent, le lépreux samaritain guéri a vu l'aujourd'hui du salut et du règne de Dieu à l'œuvre dans l'action de Jésus. C'est pas si...
Je comprends très bien. Ouais. Ouais. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Il l'a vu, lui.
Encore faut-il, c'est ça, savoir le discerner, je dirais.
Ouais.
Dans les plus petites choses, au fond, ça veut dire, pour nous, dans n'importe quel petit geste de compassion qui rend la dignité à quelqu'un, qui rapatrie un exclu. Vous voyez, dans tous ces petits gestes qui sont comme la plus petite semence, pour envoyer une parabole connue, savoir avoir le regard du lépreux samaritain guéri, qui discernent là-dedans, non pas un petit acte en passant, mais le règne de Dieu à l'œuvre déjà parmi nous. C'est un croire deuxième étape, je dirais, qui nourrit l'espérance. Et il me semble que l'espérance, ça n'est pas un luxe dans les jours que nous vivons.
Bien. Alors, vous venez d'entendre Francine Robert, professeur à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. C'est Claude Julien qui vous parle, qui vous souhaite une bonne fin de semaine à la trentaine et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure.